Maintenant, on va passer tout de suite à M. Jean-Philippe Béja. Comme ça, on laisse Mme Romère se reposer quelques minutes. Voilà. Allez-y. Monsieur Jean-Philippe Béjard, pas tout le monde le sait. Hein. En France, c'est une autorité intellectuelle sur la Chine contemporaine. Voilà, je ne me suis pas trompé. Hein.
J'ai extrêmement peur des Chiangwei, parce que les Chiangwei sont en général Bédada. Alors donc, je ne suis pas au bouillard dans Chiangwei. Écoutez, je m'excuse, je vais faire une petite annonce qui n'a aucun rapport avec notre sujet. Vous savez que je suis chercheur émérite au Centre de recherche internationale et je voulais simplement dire qu'actuellement et depuis le mois de juin de cette année, deux de nos chercheurs, Fariba Abdelkha et Roland Marshall, sont détenus en Iran pour espionnage. Alors évidemment, ça doit nous parler parce qu'au fond, il est arrivé aussi à de nombreux chercheurs qui travaillaient en Chine sur le terrain, d'être eux-mêmes arrêtés. On a actuellement deux Canadiens qui sont en prison, dont on n'a pas de nouvelles. Je voulais simplement rappeler leur nom. Nous ne sommes pas journalistes, on ne peut donc pas annoncer chaque jour au journal télévisé que depuis tant de jours, Fariba et Roland sont en prison, mais simplement, je crois que, d'abord, je vais vous montrer que nous n'oublions pas, et je pense que c'est un peu une question qui concerne l'ensemble de gens qui sont ici.
Apparemment, selon tout à l'heure, quelqu'un en Chine, on a des atouts de liberté. Comment c'est possible?
Je veux dire, là, je me demande un peu ce que je vais vous dire, parce que les trois interventions qui m'ont précédé ont à peu près couvert l'ensemble du terrain que je voulais aborder. Donc, je me trouve dans une position très différente. C'est pour ça que je voulais absolument empêcher Chen Guangzhong de parler, parce que je me suis dit qu'au moins, il me restera quelques années à couvrir pour que vous ne sachiez pas déjà tout ce que j'ai raconté. Le gros problème, c'est que malheureusement, je suis en accord profond avec tout ce qui a été dit précédemment. Donc, je ne peux même pas prendre le contre-pied pour dire qu'ils n'ont rien compris. Et moi, je vais vous expliquer quelle est la vérité. Bon, écoutez, je vais quand même essayer. Si vous pouvez vous reposer, si vous trouvez que j'ai déjà raconté, que vous avez déjà tout entendu, vous aurez un petit moment de repos avant la prochaine intervention qui sera sûrement intéressante. Donc, mon idée était de parler de l'émergence d'une communauté politique. Vous savez, dans les sciences sociales, on a très rarement l'occasion d'avoir des expériences. Si on reprend les mots de Claude Bernard, hypothèse, expérimentation et vérification, nous autres, les pauvres politologues, les historiens sont un peu mieux lotis que nous, mais les politologues, ils sont mal placés parce qu'on n'a jamais la possibilité d'avoir une expérimentation. Ce qui s'est passé à Hong Kong depuis, disons justement, 1949, c'est une expérience tout à fait particulière qui est celle de l'émergence d'une communauté politique et l'émergence d'une identité politique. Alors, Chen Guangzhong a parlé surtout de l'émergence de cette identité, mais évidemment, sans l'émergence de cette identité, il n'y aurait pas de communauté. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement très lié. Alors, je ne vais pas repartir sur tout ce qu'il a dit. Michel Bodin a parlé aussi de la manière dont Pékin envisageait Hong Kong, ce qui est aussi quelque chose d'essentiel dans l'histoire de Hong Kong. Mais je vais donc essayer de me limiter à cette communauté. Alors, bon, inutile de reprendre, hein, vous savez que quand Eliot a écrit à Palmerston pour lui dire qu'il voulait récupérer Hong Kong en 1841, Palmerston a dit « a barren rock with hardly a house upon it », un rocher désolé sans même une maison dessus. Alors évidemment, ce que disait Michel tout à l'heure, c'était que Hong Kong, avant 1840, ce n'était rien. Quoi qu'en aient dit les officiels chinois à l'approche de 1997, en disant que depuis des milliers d'années, la civilisation chinoise s'était implantée à Hong Kong et Hong Kong appartenait à la Chine. En fait, rien du tout. C'était les Nanman et tout le monde s'en moquait. Ça ne faisait pas partie véritablement de la Chine. Alors, il y a eu le suicide du dernier empereur des Song sur l'île de Lantau. Alors, OK. Mais donc, Hong Kong est une création du colonialisme britannique, il faut bien le dire, et de l'interaction entre le colonialisme et la Chine. L'évolution même de Hong Kong scande l'humiliation de la Chine. 1842, la première guerre de l'opium, cession de Hong Kong. 1860, la deuxième guerre de l'opium, cession de Kowloon. Et au lendemain de la défaite de la Chine dans la guerre sino-japonaise, peut-être la plus grave pour l'Empire chinois, c'est la cession à bail des nouveaux territoires. Donc, au départ, cette scansion même de l'humiliation de la Chine fait que la Chine veut récupérer Hong Kong pour venger les humiliations. C'est, je crois, quelque chose qui est à la base de ça. Mais, comme le disait tout à l'heure Michel, il n'y avait, Hong Kong, c'était un port. C'était un port qui permettait de faire du commerce avec la Chine et avec le reste du monde. Et pendant la plupart de son histoire, Hong Kong est marqué par ce qu'on appelle le stepping stone syndrome, c'est-à-dire le syndrome du tremplin. On ne venait pas s'installer à Hong Kong. On venait à Hong Kong pour faire du commerce avec la Chine, pour retourner en Chine, pour les étrangers, pour aller faire du commerce avec la Chine, ou bien pour les Chinois aussi, pour émigrer. Rappelons quand même qu'à partir de 1848, l'émigration chinoise vers les États-Unis part de Hong Kong, et on partira beaucoup de Hong Kong vers l'Asie du Sud-Est. Donc, comme le disait tout à l'heure Cheung Wong-chang, il n'y a pas d'identité hongkongaise, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Et donc, je ne vais pas vous redire tout ce qui a été dit sur l'émergence de ce sentiment d'appartenance. J'ajouterai peut-être seulement un petit grain de sel de mien, quand même, qui est que, à part tout ce qui a été dit, ce qui s'est passé dans les années 60 et 70, c'est que le monde extérieur s'est fermé aux Hongkongais. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus émigrer aussi facilement qu'autrefois. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne, dès 1963, n'autorise plus les British subjects de Hong Kong d'aller s'installer sur son territoire, au Royaume-Uni. Et d'autre part, en 1974, vous avez l'interdiction de l'immigration dans l'Union européenne. Ce sont deux choses qui vont faire que les gens sont largement coincés. Alors évidemment, Cheung Wong-chang a rappelé que la révolution culturelle n'était pas quelque chose qui était particulièrement attractif, et donc cette génération, la sienne, qui est aussi la mienne, comme ça, et s'est retrouvée coincée à Hong Kong. Et s'est dit, tiens, il faudrait peut-être penser un peu à comment gérer ce territoire. Non pas qu'il n'y avait pas eu de politique à Hong Kong. Il y avait de la politique à Hong Kong. On a parlé des émeutes de 67, mais on n'a pas parlé des affrontements de 1956. En 1956, les gens de Tiangongling, qui était le village du Kuomintang à Hong Kong, ont cherché à défendre leur position et à éviter d'être chassés par les communistes. Et donc il y avait une politique à Hong Kong, mais c'était une politique chinoise. 56, donc, le conflit entre le Kuomintang et le Parti communiste, et 67, la révolution culturelle. Et c'est à partir, effectivement, du mouvement du chinois comme langue officielle que va apparaître ce début d'identification. J'appellerai ça une proto-communauté politique. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre, 98% de la population est chinoise et cantonophone. La seule langue officielle, si vous avez affaire à l'administration, c'est l'anglais. Moi, j'ai assisté au premier procès qui avait lieu en cantonais en 1995. C'était très difficile pour les avocats, d'ailleurs. Ils n'arrivaient pas parce qu'ils connaissaient beaucoup mieux l'anglais. Et donc, cette bagarre pour le chinois comme langue officielle, c'était l'une des premières manifestations de cette proto-identité politique. Alors, cette proto-communauté. Je ne parle pas de... effectivement, Cheung Wong-chang a très bien parlé du cantopop, du cinéma, c'est-à-dire Hong Kong devient un lieu où se produit une culture, et cette culture va demander aussi à avoir une traduction politique. Alors, je saute, moi aussi, pour éviter de m'arrêter aux années 70. Michel rappelait que MacLehose, à partir du milieu des années 70, on se pose la question de la rétrocession. Et là encore, la question c'est, est-ce que Hong Kong will have a say? Est-ce que Hong Kong va pouvoir dire son mot sur les conditions de la rétrocession? Et à ce moment-là, on voit émerger peut-être ce qui est le premier groupe politique hongkongais, qui est les Hong Kong Observers. Alors, dans les Hong Kong Observers, vous avez des gens qui aujourd'hui ont évolué de façon extrêmement différente, hein, puisque Siu Ai-Lang, Lang Zhenying, qui est l'ancien chef de l'exécutif, était fondateur des Hong Kong Observers. Et puis vous aviez aussi Christine Low, et puis d'autres gens comme... mais je pense que Emily Lau en était aussi. Donc, vous voyez, pratiquement tout le spectre politique de Hong Kong se trouve dans ce mouvement créé en 1975. Donc, c'est là que je serais un petit peu en désaccord avec Chen Guangchun. Je ne suis pas aussi pessimiste que lui sur notre génération, peut-être parce que je suis un vrai vieux con, et je pense qu'elle a quand même joué un rôle important dans cette prise de conscience de la nécessité d'avoir, après avoir pris conscience d'une identité politique, de transformer cette identité politique dans le domaine, dans le domaine de la communauté politique. L'identité devient une identité politique et il va falloir la défendre. Alors, ce qui se passe après, je vais très vite, c'est évidemment les négociations sur la Joint Declaration, les négociations sino-britanniques, où on a la fameuse histoire du tabouret. Hein. Vous savez, les Anglais disent, pour qu'un tabouret tienne debout, il faut qu'il ait trois pieds. Hein. Il faut donc qu'il y ait d'un côté les Chinois, de l'autre côté les Anglais, et de troisième côté, ben, la population de Hong Kong. Alors, les Chinois, en n'ayant pas complètement tort, disent, mais pas du tout, les tabourets chinois, ils tiennent sur deux pattes, sur deux pieds, et donc il suffit qu'il y ait les Anglais et les Chinois qui négocient, puisque nous représentons les Chinois. Et en même temps, c'est vrai que les représentants de Hong Kong à l'époque, on se demande qui ça aurait été. Rappelons qu'à ce moment-là, jusqu'à 1984, tous les membres du LegCo sont nommés. Alors c'est vrai que Zhou Enlai avait dit qu'il ne fallait pas faire de démocratie, mais disons qu'on n'a pas beaucoup poussé, les Anglais n'ont pas beaucoup poussé la démocratisation qu'ils avaient envisagée en 1945. On ne peut pas dire qu'en 1953-54, la Chine était une très grande puissance. Donc, s'ils avaient vraiment voulu, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Donc, donnons aussi aux Britanniques les responsabilités qu'ils ont. Ils n'ont pas été enthousiastes dans la démocratisation de Hong Kong. Donc, au cours de cette négociation, on va avoir la promesse de Gao Du Zizhi, hein, justement, ce haut degré d'autonomie qui était promis à Hong Kong, et Gangren Zhigang, c'est-à-dire les Hongkongais administrent Hong Kong, sauf dans le domaine de la défense nationale et de la sécurité. Défense nationale et affaires étrangères, pardon. À partir de là, il va y avoir les négociations pour la Basic Law, la loi fondamentale, vont s'ouvrir. Alors déjà en 1984, les Anglais ont créer les premières élections qui sont les élections aux functional constituencies, hein, c'est-à-dire les circonscriptions socio-professionnelles qui, en fait, sont soi-disant censées représenter les forces vives de la nation. Alors, les forces vives, c'est essentiellement les businessmen, hein, les hommes d'affaires, alors les assurances, les finances, les industries textiles, etc., mais aussi deux circonscriptions socio-professionnelles qui vont jouer un rôle très important, les avocats et les enseignants. Là, les avocats et les enseignants, c'est l'ensemble de la profession qui va voter. Et qu'est-ce qu'on aura comme élu à ces circonscriptions socio-professionnelles ? Sitou Wa pour les enseignants et Martin Lee pour les avocats. Des gens qui vont jouer un rôle très important dans la politique hongkongaise après ce temps-là. Alors, les Chinois ne veulent pas être en reste. Il faut quand même mobiliser l'enthousiasme de la population pour qu'elle vienne avec enthousiasme, qu'elle huégue avec enthousiasme. Et donc, ils vont créer deux groupes pour fonder la Basic Law. Alors, ces groupes, ces comités ont une majorité de membres qui sont des membres du continent, mais ils vont choisir un certain nombre de représentants de la population hongkongaise. Alors, il y a deux groupes. Hein. C'est que c'est fait comme avec le Parti communiste en Chine. On a en Chine l'Assemblée populaire nationale et la CPCPC. Et à Hong Kong, on aura le Basic Law Drafting Committee, qui serait l'équivalent de l'APN, et d'autre part, le Basic Law Consultative Committee. Et dans ce Basic Law Drafting Committee, il y a Sito Hwa et Martin Lee. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, le Parti communiste chinois prend en compte l'émergence de ces hommes politiques. Pardon, il ne faut pas que je dise des hommes politiques, c'est très politically incorrect. Ces personnalités politiques qui vont jouer un rôle très important. Et donc, les négociations au sein de ces comités, plus les Hong Kong Observers, plus la bagarre sur Daya Bay où la société hongkongaise va se mobiliser contre la centrale nucléaire de Daya Bay, construite par les Français, il faut bien le dire, une fois de plus. Hein. On n'a pas commencé avec les canons à eau, on a commencé avec les centrales nucléaires. Cette opposition va permettre aussi à une partie de la population hongkongaise de prendre conscience de la nécessité d'agir sur le terrain politique. Alors, rappelons-nous quand même juste un mot. Quand on parle de la Chine, on pense à la Chine de Xi Jinping. En 1984-1989, vous avez une Chine qui est en train de chercher par tous les moyens à, dans une certaine mesure, se démocratiser, au moins prendre en compte la position de la société. C'est la Chine de Hu Yaobang et la Chine de Zhao Ziyang. Hein. Donc, cette idée de la convergence, maintenant, on rit beaucoup sur la convergence, en fait, à l'époque, elle n'était pas si ridicule. Et donc, les Anglais ont sûrement trahi les intérêts de la population hongkongaise, mais pas autant qu'on le pense aujourd'hui quand on en reparle. Je pense que la formule « un pays, deux systèmes » et l'idée même de la convergence pouvait être envisagée de façon réaliste à l'époque. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'opposition énorme à partir du moment où la Joint Declaration a été signée. Les forces vives de Hong Kong ne se sont jamais opposées à la rétrocession. Jamais. Il n'y a pas eu de demande d'indépendance de Hong Kong. Ce qui va changer les choses, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, et c'est là-dessus que je voudrais discuter avec les jeunes Hongkongais d'aujourd'hui, c'est 1989. 1989, comme l'a dit tout à l'heure Zhou Baosong, n'est pas seulement un événement chinois. Aujourd'hui, 1989, le 4 juin, Liu Si, c'est Loksei. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu un événement hongkongais. Alors, le 4 juin, qu'est-ce qui se passe? Le 4 juin, au moment de la proclamation... Alors déjà, l'ensemble de la population, notamment les étudiants hongkongais, avaient beaucoup soutenu le mouvement de Pékin et du reste de la Chine. Rappelons que ce n'est pas seulement Pékin, il y a aussi Canton, il y a 300 villes dans lesquelles il y a un mouvement. Et les Hongkongais ont beaucoup soutenu matériellement ce mouvement et sont allés beaucoup aussi en Chine. À l'époque, et pas seulement les étudiants, mais aussi les représentants de la société civile. Quand Li Peng proclame la guerre martiale le 19 mai au soir, le lendemain, 20 mai, on a plus de 500 000 personnes qui descendent dans la rue à Hong Kong et qui disent il faut faire très attention. Et en tête de cette manifestation, vous avez ce qu'on appelle les Dianzhipai après. C'est-à-dire les forces pro-chinoises, les dirigeants du Wenhuibao, les dirigeants du Dagongbao, Zhang Yuxing et les autres, qui sont tous au premier rang pour dire qu'il faut lutter contre cette loi martiale. Le 4 juin, c'est le massacre de Tiananmen, et à ce moment-là, avec un typhon numéro 3, il y a 1 million de personnes qui descendent dans la rue à Hong Kong. 1 million sur 5,5 millions. Ça veut dire pratiquement tout le monde. Et là encore, au premier rang, vous avez les pro-chinois, les pro-Pékin. Parce qu'être pro-Pékin, ce n'est pas nécessairement être pro-Li Peng ou pro-Deng Xiaoping. Donc c'est quelque chose de très important. Et à ce moment-là, le slogan, c'est le Pékin d'aujourd'hui ne doit pas être Hong Kong demain. C'est-à-dire aujourd'hui Pékin, demain Hong Kong. Et il faut donc, dans ces conditions, absolument éviter que Hong Kong ne subisse le sort de Pékin. Et quel est la garantie qui permettra de l'éviter, c'est la démocratie et l'élection au suffrage universel. Donc, je pense que cette idée de défendre d'essayer d'instaurer la démocratie à Hong Kong est en fait quelque chose qui remonte au 4 juin 1989. Et on va avoir ça, ce qui est très clair, c'est que la Zhelianhui, les fondateurs de la Zhelianhui, les dirigeants de la Zhelianhui, sont les fondateurs de tous les partis démocrates à Hong Kong, qu'il s'agisse du Minzhu Dang, qu'il s'agisse du Gongdang, qu'il s'agisse de peut-être moins le Kuomintang, mais enfin, dans l'ensemble, tous ceux qui vont jouer un rôle important dans la démocratisation de Hong Kong sont les gens de la Zhelianhui. Donc, quand on leur reproche aujourd'hui d'avoir dit « il faudra la démocratie en Chine » et de ne pas s'être préoccupé de la démocratie à Hong Kong, c'est un faux procès qu'on leur fait. Et je veux le dire aujourd'hui, je pense absolument que, en réalité, pour eux, ce qui était clair, c'est que la démocratie à Hong Kong était la garantie pour que Hong Kong ne devienne pas « just another Chinese city », c'est-à-dire une autre ville chinoise comme les autres. Et depuis cette veillée du 4 juin, qui, enfin, écoutez, il y a quand même un truc invraisemblable. Depuis 30 ans, on célèbre, une centaine de milliers de personnes célèbrent à Hong Kong, commémorent à Hong Kong, un massacre qui a eu lieu ailleurs, qui s'est passé à l'étranger, dans un autre, et qui a eu comme victime des étrangers. Mais parce qu'aujourd'hui, la veillée du 4 juin, c'est en fait la communion de la population de Hong Kong dans la défense de la démocratie. Alors, pourquoi la démocratie en Chine? Parce que ce serait le seul moyen d'avoir une garantie pour la démocratie à Hong Kong. Mais pourquoi la démocratie à Hong Kong? Parce que c'est le seul moyen d'éviter que Hong Kong ne devienne une autre ville chinoise. Et je crois donc que c'est quelque chose d'absolument essentiel et que c'est là que l'on peut trouver l'acte de naissance de cette communauté politique qui n'a fait que devenir, que mûrir au cours des années qui ont suivi. Alors, mûrir. Alors, par exemple, les élections, on en a parlé tout à l'heure, depuis les premières élections de 1991 jusqu'aux dernières élections de 2016, les partis démocrates ont obtenu entre 58 et 62% des voix, toujours. Mais la Basic Law fait que la majorité n'aura jamais la majorité dans les institutions, ni au LegCo, ni bien sûr avec la désignation du chef de l'exécutif. Donc, qu'est-ce qui reste à la population de Hong Kong pour exprimer ses volontés politiques, pour se manifester en tant que communauté politique, outre le suffrage universel qui donne toujours ce pourcentage dont je parle, ce sont les manifestations. C'est descendre dans la rue. Et ainsi, en 2003, lorsque Tong Jianhua met l'article 23 qui condamne la subversion sur le bureau du LegCo, ce qui se passe, c'est que vous avez 500 000 personnes qui descendent dans la rue et qui obtiennent la suspension de cet article 23. Et je vous jure que quoi qu'en dise le quatrième plénum aujourd'hui, le Hongkongais qui va mettre l'article 23 aux voix n'est pas encore né. Je pense qu'aucun homme politique hongkongais qui aurait le sens de ce que c'est que la vie de Hong Kong n'aurait l'idée de mettre l'article 23, de proposer au LegCo. Donc, la rue devient le forum où s'exprime cette communauté politique. Cette communauté politique qui a des formes qui a tout un spectre politique. La communauté politique, ce n'est pas seulement les démocrates, mais ce sont quand même largement une partie, par exemple, des forces pro-Pékin. Pourquoi est-ce qu'elles présentent des candidats, au fond? Si elles ne croyaient pas du tout à la démocratie représentative comme élément constitutif de cette identité hongkongaise et de cette communauté politique, elle pourrait simplement attendre que, avec les functional constituencies et la désignation du chef de l'exécutif, on ait simplement cette majorité pour pouvoir continuer. Mais non, elles reconnaissent aussi le suffrage universel. En 2002, je crois, quand la DAB, la Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong, le principal parti pro-chinois, a subi une défaite, Zhang Yuxing, une défaite électorale, Zhang Yuxing, qui était son président, a démissionné. reconnaissant donc le verdict du suffrage universel. C'est-à-dire que c'est donc quelque chose qui fait partie de la culture politique de cette communauté. Les libertés fondamentales dont parlait Joe Baosong tout à l'heure, bien sûr, mais aussi les élections au suffrage universel garanties du mouvement. Je fais un saut jusqu'à 2000. Donc, quand même, juste un mot sur l'éducation patriotique. Parce qu'aujourd'hui, le quatrième plénum nous dit qu'il va falloir relancer l'éducation patriotique des élèves et des fonctionnaires, en plus, et pourquoi pas. Et puis pourquoi pas de tout le monde, enfin je veux dire des pêcheurs. Ce qui s'est passé en 2012, lorsqu'on a essayé de lancer le mouvement d'éducation patriotique, là encore, le LegCo n'avait rien dit, mais c'est la rue, une fois de plus, les parents d'élèves, les élèves qui sont descendus dans la rue devant People's Square, ce qu'on appelle, devant le siège du LegCo et du gouvernement, et qui ont réussi à obtenir le retrait du projet de loi d'éducation patriotique, ce qui a aussi donné naissance à un leader politique qui est quand même extrêmement remarquable, qui avait 16 ans à l'époque, et qui est Joshua Wong, je veux dire, qui est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Donc, là encore, la rue a obtenu satisfaction. Donc, vous n'avez pas de majorité au LegCo, mais on peut empêcher ce qu'on appelle les UFA, les mauvaises lois, on les empêche de passer grâce à la mobilisation de la rue. 2014, l'élection promise du chef de l'exécutif au suffrage universel, élection promise par Pékin en 2007 pour 2017, là encore, déception énorme d'une grande partie de la population qui aboutit au mouvement des parapluies. Alors le mouvement des parapluies, c'est évidemment un mouvement de désobéissance civile, mouvement entièrement non violent, et qui va aussi permettre à une nouvelle culture politique de s'exprimer, une nouvelle culture qui est une culture plus directement hongkongaise. Alors, je crois qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, allez, tiens, il faut bien que j'apporte quelque chose de nouveau, et c'est l'importance de l'échéance de 2047. Chose que peut-être on est trop vieux pour se la poser, cette question. Pour moi, 2047, it's not an issue. C'est pas un problème parce que je serai plus là. Mais en fait, le mouvement des parapluies est très lié à l'idée de 2047. Pourquoi ? Parce que les jeunes commencent à se poser la question de ce qui va advenir de Hong Kong après 2047. Est-ce qu'on va revenir à un pays, un système ? Est-ce que Hong Kong deviendra just another Chinese city ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Et la question qui se pose, quel est le meilleur moyen d'empêcher cela ? Une fois de plus, ils retrouvent la même solution que les gens de la Jolian Hui en 1989, c'est l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif et du LegCo. C'est-à-dire que seules des élections démocratiques permettront de sauver la spécificité de Hong Kong et de la maintenir au-delà de 2047. On connaît tous l'issue de ce mouvement. Alors là encore, je vais être un petit peu en désaccord avec ce qui a été affirmé et ce que pensent les Yong Wupai, ce que moi j'aime mieux appeler les valeureux ou les vaillants que les braves. Les braves, ça rappelle les bandes dessinées des enfants quand on parlait des Indiens. Je pense que là encore, en fait, il y a eu beaucoup de victoires après 2047. Après 2014. Tout a été évacué, les gens se sont rendus. Mais regardons ce qui s'est passé aux élections de 2016. Les élections de 2016 ont donné le plus grand nombre d'élus démocrates et localistes de l'histoire. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors, évidemment, d'autre part, dans l'ensemble de la société, quelque chose qui ne se voyait pas, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de plus en plus importante de cette identité, de cette communauté. Hein. Alors ça se voyait aussi dans des manifestations pas particulièrement sympathiques, hein, à Canton Road, contre les touristes originaires du continent, contre la présence, enfin je veux dire, tout le monde se souvient de l'histoire d'un petit gosse pékinois qui avait dû faire pipi dans le caniveau en même temps, et qu'on montrait que c'était impossible de vivre avec des gens comme ça. Mais le gouvernement a cru que le mouvement des parapluies était un échec et qu'on pouvait tout faire. D'où ce qui s'est passé pendant les 5 années. Pêle-mêle, l'arrestation des éditeurs, hein, leur enlèvement à Hong Kong même, l'enlèvement de Sir Jian Hua, les invalidations de 6 députés sur 30, c'est quand même 20% de députés démocrates, et l'interdiction du parti national, et aussi tous ces éléments qui ont été, et la condamnation des 3 d'Occupy et des gens de la Fishbowl Revolution qui c'était de 2016. Et tout ça s'est passé sans qu'il y ait de profonde réaction de l'ensemble de la population. Vous arrêtez, vous enlevez les éditeurs, les journaux, le Apple Daily crie un peu, le Mingbao aussi, et puis rien ne se passe. Et à chaque fois, condamnation des gens, moi je me rappelle, j'étais au procès des 3 d'Occupy, on était 120 à protester contre ça. Donc le gouvernement se dit à ce moment-là, ça y est, Hong Kong est redevenue la cité économique qu'elle était. Il n'y a plus de communauté politique, il n'y a plus de politisation. Donc on va pouvoir y aller, d'où l'introduction de Anti-Extradition Bill, qui là va déclencher un énorme mouvement qui dure encore aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, c'est justement... même s'il y avait eu un certain silence pendant des années, s'il n'y avait plus eu de réaction, en réalité, cette communauté politique, aujourd'hui, elle est mûre. Et elle est représentée dans tout ce mouvement. Comme le disait très justement Joe Baosong, c'est que ce mouvement est un mouvement trans-classe et trans-âge. C'est-à-dire qu'entre les Khalifei et les Yong Wupai, vous avez cette espèce d'unité qui représente, y compris parmi les Yong Wupai, vous avez des gens qui sont tout à fait des professionals. Vous avez des médecins, des avocats. Je parle de ceux qui vont faire le coup de poing. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y a cette leçon qui a été tirée de l'échec, du semi-échec, à mon avis, de la révolution des parapluies, qui est il ne faut pas accepter qu'il y ait une séparation entre les radicaux et les modérés. Ce qui est la stratégie du pouvoir à Hong Kong et à Pékin. C'est-à-dire jouer la violence, jouer la séparation entre le ras-le-bol des larges masses, jouer un peu la stratégie des Gilets jaunes, hein, au fond. Où les Gilets jaunes disposaient d'un énorme soutien dans la population au début, et puis à force de violence, à force de vandalisme, ils ont perdu ce soutien. Donc l'idée du gouvernement, l'idée de Pékin, c'est celle-là. Il faut couper les radicaux de l'ensemble. Or, les leçons tirées du mouvement des parapluies font que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, même si le pouvoir se refuse totalement. On a encore entendu Carrie Lam hier. C'est absolument surréaliste quand on entend Carrie Lam qui dit « Jamais je ne négocierai sous la menace de la violence ». Enfin, je veux dire, c'est un mouvement qui a commencé non-violent, qui dure depuis 5 mois et qui a 5 revendications. À la différence des Gilets jaunes, qui avaient des revendications qui partaient dans tous les sens, ce mouvement-là est uni entièrement autour des 5 revendications. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour tout le monde. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est l'avenir et comment est-ce que cette communauté politique va pouvoir continuer à se manifester face à un pouvoir à Pékin qui est de plus en plus radical, il faut bien le dire, et qui se refuse à accepter toute forme de négociation pour toutes les les raisons qui ont été données, qui ont été données plus haut. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'abord des élections aux district councils? Les élections aux district councils, si elles ont lieu, risquent bien, en l'état actuel des choses, de donner un raz-de-marée en faveur de l'opposition, j'appelle l'opposition, de la majorité, c'est-à-dire en faveur des démocrates et des localistes. Dans ces conditions, est-ce que le gouvernement va, et c'est très inquiétant si vous lisez le Jamie Robert ce matin, qui dit on ne peut pas tenir des élections dans des conditions de violence. Donc, qui a intérêt à la violence aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des provocations? Là, je crois que c'est une question que le mouvement doit se poser. Je pense que simplement affirmer la solidarité avec les frontliners, avec les Young Wupas, qui commencent aujourd'hui à être pris dans une sorte d'hubris, une hubris qui est compréhensible, parce que quand vous avez été en première ligne depuis des années que vous, depuis des mois, et que les arrestations pleuvent, que le gouvernement a peut-être décidé d'éliminer toute une génération, vous vous dites « l'amtang », hein, c'est-à-dire il faut « we burn, you burn with us ». Ce n'est pas une solution. Je veux dire, on n'obtient pas le suffrage universel avec des manifestations en quelques jours. Je crois qu'il faut absolument aujourd'hui que la grande masse de ceux qui soutiennent encore, qui soutiennent les Young Wupas, explique à ces Young Wupas que le seul moyen aujourd'hui d'avancer, c'est de commencer à envisager des négociations, même si en face on les négocie, il n'y a pas de négociation. Par exemple, la commission d'enquête indépendante. Pourquoi pas créer une commission d'enquête indépendante avec des gens qui sont irréprochables, un juge, des professeurs de droit, etc. Ce serait une initiative possible. Il faut montrer que la négociation est possible. Il reste dans le camp du pouvoir des gens qui sont prêts à négocier. Ils ne représentent pas la majorité, c'est vrai. Ils n'ont pas le soutien de Pékin. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir l'ensemble de la société hongkongaise qui défendrait cette identité politique. Alors, bon, je ne suis pas ici pour donner des leçons, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, la violence, même si elle est essentiellement provoquée par la police, cette violence dessert le mouvement. Et je crois qu'il faut, dans une certaine mesure, arriver à revenir à une vision plus réaliste, plus pacifique, qui malheureusement n'arrivera pas à la victoire, mais qui permettra de ne pas tout perdre, ce qui est, à mon avis, essentiel pour Hong Kong. Merci.
Bon, je trouve que c'est un discours, une présentation excellente en tant que sinologue et aussi politologue.